enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissance.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Regardons ensemble dans la parole de Dieu. Tournez avec moi dans votre Bible au livre de la Genèse, le livre des commencements, le livre du commencement du rêve de Dieu, le livre de la Genèse, chapitre 39. Nous allons lire une portion. Nous lisons ensemble et découvrons la vie de Joseph et le rêve que Dieu a pour chacun d'entre nous dans Genèse, chapitre 39. Si vous n'avez pas, de Bible, tous les versets vont apparaître à l'écran à mesure que le message va se dérouler. Je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui écoutent cette série de messages ici dans ce lieu, à cette deuxième réunion à 11h30, ici à Nouvelle-Vie. Mais nous sommes de plus en plus conscients des milliers et dizaines de milliers de personnes qui écoutent les messages à la radio, mais aussi par le truchement de l'Internet. Il y a eu 120 000 personnes qui ont téléchargé des messages de l'Église Nouvelle-Vie l'an dernier. Et il y a quelques semaines, on est en train de faire un comité qui a été mis sur pied afin qu'on pense, d'ici quelques semaines ou mois ou plus tard, on puisse rendre disponible, comme on rend des CD disponibles, nous allons maintenant rendre les DVD disponibles. On est en train de s'organiser. Moi, j'ai toujours pensé que j'avais une face de radio, mais ça a l'air qu'on va aller maintenant en DVD. Il y a quelques semaines, il y a un test qui a été fait, et c'est assez touchant, sur une période de 7 jours. Ils ont mis un DVD sur Internet d'une réunion d'Église Nouvelle-Vie, et il y a 22 000 personnes, en date d'aujourd'hui, en 7 jours, 22 000 personnes qui ont téléchargé, qui sont allées écouter la réunion et se joindre à nous par le truchement de l'Internet. Alors, nous allons croire le Seigneur ensemble pour que le rêve de Dieu puisse toucher le plus grand nombre possible. Et à tous ceux qui se joignent à nous, on souhaite la bienvenue et on prie que ce message puisse aller toucher vos cœurs. Dieu a un rêve pour chacune de nos vies. Dieu a un rêve pour chacune de nos vies. Et juste en rentrant, me préparant pour venir sur la stade de la deuxième réunion, il y a un frère qui m'a pris par le bras, il est ici ce matin, il m'a dit, Seigneur m'a béni. Et il y a quelques temps, il traversait des périodes tellement difficiles, mais Dieu a restauré, touché son couple, touché son mariage et touché aussi son travail. Puis il dit, j'avais un rêve de servir Dieu, j'avais un rêve de que Dieu me prospère, que Dieu me bénisse et que je puisse être un exemple. Il dit, je viens d'être nommé meilleur vendeur au Canada pour ma compagnie. Et puis, j'ai gagné un voyage dans un hôtel 5 étoiles de Las Vegas. Et ça, c'est des moments où tu dois garder le rêve pour toi-même. Alors, est-ce que vous comprenez que c'est le rêve de Dieu de bénir chaque homme qui est ici, chaque femme, chaque famille? Moi, d'entre vous, soyez honnêtes, vous aimeriez être dans le rêve de Dieu pour Las Vegas, vous aussi. Dites amen. Mais où que Dieu vous conduise et quel que soit l'endroit où vous êtes, Dieu a un rêve pour vous. Et aussi, quelles que soient les épreuves que vous traversez, Dieu a un rêve pour vous. Et je remercie tous ceux qui envoient des emails. C'est tellement édifiant, encourageant, motivant. Il y en a un cette semaine qui est entré et c'était très touchant, émouvant pour moi parce que la dame écrit avec une grande simplicité ce qu'elle traverse. Mais ce qu'elle traverse était vraiment cauchemardesque. Et au milieu de ce cauchemar-là, le rêve de Dieu se révèle et Dieu fait une œuvre en elle et elle a témoigné ce que Dieu a fait pour elle et pour son fils. Et je vous le témoigne ce matin, je le témoigne pour tous les parents qui sont dans ces lieux, mais pour vous-même, quel que soit ce qui vient attaquer, ce qui est venu gruger, ce qui est venu poignarder le rêve de Dieu dans votre vie, le rêve de Dieu, les désirs de Dieu sont là, présents. Le cœur de Dieu bat avec son désir de les accomplir en vous. Cette dame écrit et que son témoignage vous fortifie ce matin en débutant. Elle écrit « Bonjour, Pasteur Hood, je vous écris pour dire merci à Dieu » et pour vous encourager à continuer avec l'Église Nouvelle-Vie. Je suis aidée par Action Nouvelle-Vie depuis 3 ans. Je suis une maman seule avec 5 enfants. Mon mari est retourné dans notre pays d'origine ou aux États-Unis. Nous ne savons pas où il est exactement en ce moment. Il a quitté, il nous a laissés et je n'ai aucun soutien. Action Nouvelle-Vie nous permet de vivre avec la nourriture qu'il nous donne depuis ces 3 années, les vêtements et même les cadeaux de Noël pour les enfants. Je viens à l'Église Nouvelle-Vie depuis 1 an. C'est la nourriture pour mon âme. C'est une nouvelle qui s'est jointe à l'Église. C'est là, à mon Église avec vous tous, que je trouve mes forces. Je travaille dans les hôpitaux et souvent de nuit, mais je ne manque jamais un dimanche, car c'est à l'Église que je garde l'espoir dans mon cœur. Dieu m'a exaucé et je voulais vous le dire. Il a fait un miracle dans la vie de mon fils. Mon fils aîné de 19 ans était suicidaire. Il a déjà fait une tentative de suicide très grave, mais en 2006, si c'est possible, il était encore dans un pire état. À chaque jour, j'avais peur de revenir à la maison et de le retrouver mort. Lorsque vous avez annoncé une série de messages le dimanche sur la dépression, j'ai prié, je l'ai supplié de venir. Dieu a préparé son cœur. Il était déjà venu à Nouvelle Vie plusieurs fois et il était toujours touché, mais il ne revenait pas régulièrement. Là, il a accroché. Il vient avec moi chaque semaine. Il s'est avancé pour accepter le Seigneur dans sa vie. Il s'est avancé plusieurs fois pour prier. Il est arrivé ici et a rencontré des jeunes qu'il connaissait de l'école, qui sont chrétiens. Il s'est fait des amis. Il va à la jeunesse le vendredi soir et je le vois changer complètement sous mes yeux depuis 3 mois. Votre message sur le rêve de Dieu l'a percuté. Il a acheté des CD pour la première fois. Il les écoute plusieurs fois. Il m'a dit, « Maman, je vais retourner à l'école. Je vais aller chercher mon diplôme. C'est le rêve de Dieu pour moi. » On va applaudir juste la simplicité. Combien est-ce que de parents ici qui croient que c'est le rêve de Dieu que leurs enfants restent à l'école? Dites « Amen ». Elle continue en disant ces mots. Ça m'a tellement ému. Il y a un an, il était enfermé dans le noir toute la journée, des semaines complètes. Et maintenant, il me parle du rêve de Dieu pour son avenir. Son psychiatre m'a écrit une note pour me dire qu'il faisait des progrès remarquables. Il m'écrit que la thérapie qu'il suit à l'église lui fait un bien énorme et que ses symptômes de dépression profonde sont résorbés. Il m'a demandé si l'église serait intéressée à ce qu'il vous réfère d'autres cas. Combien croient qu'on est intéressé? Hallelujah. Ce n'est pas quelque chose d'instantané, c'est pas quelque chose en un instant, mais nous croyons qu'il y a actif dans ce lieu celui qui a dit, je guérirai les cœurs brisés et je rebâtirai des cendres ceux qui étaient démolis. Que ceux qui le savent crient Amen et applaudissent le grand consolateur. Hallelujah. Et la façon dont elle signe sa lettre me touche tellement, elle écrit, elle signe une mère reconnaissante au Seigneur et confiante, moi aussi, pour le rêve de Dieu, pour mon avenir et pour ma famille. J'aimerais que chaque personne qui est confiant, malgré tout ce qui peut arriver, chaque personne qui est confiant dans le rêve de Dieu pour votre avenir, dites un grand Amen ce matin. Et laissez une ovation monter dans ce lieu pour le rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. Dieu dit, je connais les plans, les destinées, les desseins, les intentions, les visions, les rêves que j'ai pour vous, dit le Seigneur. Des plans ou des rêves de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je crois que cette série de messages est très importante, pas à cause d'un prédicateur, pas à cause de quelques qualités qu'on a en nous-mêmes ou en moi-même comme communicateur, mais je crois qu'elle est très importante, qu'elle est vitale pour chaque personne ici dans ce lieu, que dans toutes les heures, tout ce qu'on peut passer dans une année et dans une vie, quelle importance suprême de dire « je mets des dimanches à part, je prie que vous ne manquiez pas un dimanche les prochaines semaines pour dire « je veux commencer l'année, cette série va être en janvier, février, mars, je veux commencer l'année afin de découvrir, de retrouver, de raviver et de m'emparer du rêve de Dieu pour moi. » La durée de vie moyenne d'une personne en Amérique du Nord est de 25 500 jours. Ne pensez-vous pas que ça vaut la peine de prendre quelques dimanches en début 2007 pour découvrir le rêve de Dieu pour votre vie? Ce rêve-là, il est en Dieu, il est en lui. Dieu a un rêve pour chaque être humain. Dieu rêve que chaque personne puisse le découvrir et le connaître comme son sauveur personnel, pour que chaque personne puisse découvrir que Jésus est mort pour lui ou pour elle, qu'il est ressuscité, qu'il veut vivre en elle, que le rêve de Dieu et que chaque personne puisse trouver le pardon de ses fautes et cette marche, cette nouvelle naissance avec Dieu. Le rêve de Dieu, c'est que comme chaque être humain a une date de naissance, un arrivée sur cette terre, Dieu dit, j'ai une nouvelle naissance pour toi, une naissance spirituelle où tu vas naître de l'Esprit, où à partir de ce moment-là, qui je suis, l'essence de Dieu, l'Esprit de Dieu, la force de Dieu, les capacités de Dieu et le commencement du rêve de Dieu va être déversé en toi. Et mon rêve, c'est qu'à partir de ce moment-là, je ne te laisserai plus, je ne t'abandonnerai plus, puis je vais t'apprendre à me connaître. Dieu dit, mon rêve pour chaque être humain, c'est qu'il soit libre. Je vais lui apprendre à être libéré de tout ce qu'il démolissait, tout ce qu'il détruisait, de toutes les habitudes qui lui tordaient la vie et lui avortaient mon plan dans sa vie. Dieu dit, mon rêve, c'est que je vais guérir tes relations humaines. Je vais guérir tes relations conjugales, parentales, familiales. Guérir tes relations avec ton passé, avec ton présent, afin que tu puisses t'emparer de ton avenir. Dieu dit, mon rêve, c'est que je vais t'apprendre comment pardonner. Je vais t'apprendre comment aimer. Je vais t'apprendre comment parler. Je vais t'apprendre comment trouver un repos pour ton âme. Dieu dit, j'ai un rêve pour chaque personne ici. J'ai mis des dons en toi, des capacités en toi. J'ai mis des talents en toi. Et j'ai un rêve que tu vas faire des choses sur cette terre que personne d'autre va pouvoir faire. Tu as été créé pour amener une gloire spéciale à Dieu, pour amener un accomplissement. Il y a une tâche que toi, tu peux faire, que personne d'autre sur cette terre ne peut faire. Dieu dit, j'ai mis en toi des dons et des capacités. Tu es créé d'une certaine façon. Tu peux me servir d'une façon pour une œuvre préparée d'avance que moi j'ai, que personne d'autre ne peut faire. Vous comprenez que ni David Wilkerson ou ni Jim Cimbala ou Tommy Barnett ou quel que soit Billy Graham, l'homme de Dieu que vous admirez, aucun de ces hommes-là ne peut accomplir ce que Dieu vous a appelé vous à faire. Dites à la personne à côté de vous, essaye même pas, tu n'es pas capable de faire ce que moi je suis appelé à faire. Dites ça à la personne à côté de vous. Dieu dit, j'ai un rêve. J'ai un rêve pour chaque être humain. Et c'est en lui, c'est dans notre communion avec lui. Coupe cette relation, néglige cette relation. Ne nourris pas cette relation avec Dieu. Et dans la mesure où ta relation avec Dieu s'amenuise ou s'atrophie, dans la même mesure, le rêve de Dieu diminue dans sa possibilité d'accomplissement dans ta vie. Éphésiens 1:11 dans la Bible, The Message, le message, le dit de cette façon. C'est en Dieu que nous découvrons qui nous sommes et notre raison de vivre véritable. Bien avant que nous ayons entendu parler de Christ, il avait ses yeux sur nous. Il avait des plans pour une vie abondante et épanouie qui faisait partie de la décision de sa volonté, du dessein de sa volonté ou qui faisait partie du rêve de ce qu'il a désiré et préparé pour chacun d'entre nous. Et quand il n'y a pas de hazon, quand il n'y a pas de vision, le peuple périt, le peuple est sans frein, le peuple se détruit. C'est pourquoi la semaine dernière, nous avons découvert ensemble la puissance du rêve de Dieu. Et cette semaine, alors que nous regardons la vie de Joseph, on regarde pas seulement la puissance du rêve de Dieu dans la vie de Joseph, mais comment protéger ou la protection du rêve de Dieu. En tant que pasteur et comme personne, comme individu, moi, je n'ai pas beaucoup de dons. Il y a des gens qui ont des dons extraordinaires dans toutes sortes de domaines. Moi, je n'ai pas beaucoup de dons. Mais un des dons que Dieu m'a donné, que je crois que c'est Dieu qui m'a donné, et je crois que c'est un des dons que Dieu donne au pasteur, que c'est un don qui est tellement important dans des rôles pastoraux, et Dieu a mis ce don-là en moi, c'est que Dieu m'a donné une capacité, ça vient de son cœur à lui, mais Dieu m'a donné une capacité de voir ce que les gens pourraient devenir, de devenir extraordinairement, et parfois, lorsque je me souviens, lorsque j'étais pasteur de jeunesse avec des jeunes ou à des gens de toutes sortes, différents âges, parfois même de voir dans les gens des choses qui pourraient devenir qu'ils ne voient même pas en eux-mêmes. C'est la joie, c'est la plus grande source d'accomplissement, de joie, c'est le salaire, c'est la récompense, c'est la joie, c'est la motivation, c'est l'essence super plus de la vie d'un pasteur. Ce qui nous fait avancer, ce qui est notre nourriture, c'est de voir des gens accomplir le rêve de Dieu. Il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un s'emparer du rêve de Dieu. Et paradoxalement, la plus grande douleur, plus grande blessure, plus grand déchirement dans mon cœur, dans ma vie. C'est quelque chose avec lequel tu t'habitues jamais. Jamais ça devient facile. Jamais tu le prends à la légère. Jamais tu passes à d'autres choses. C'est des choses qui te gardent debout la nuit après toutes les années. Il y en a 3500 personnes à la Nouvelle-Vie. Il y en aura 5000, il y en aura 10 000. Jamais nous nous habituerons. La plus grande douleur dans la vie d'un berger, c'est de voir des gens manquer le rêve de Dieu. Saboter le rêve de Dieu. Avorter le rêve de Dieu, de les voir se faire du mal à eux-mêmes, de voir faire du mal aux gens autour d'eux, de les voir avorter le rêve de Dieu. Alors cette semaine et dans les prochains messages, je voudrais faire quelque chose avec vous. C'est la vie de Joseph qui nous le dicte de manière magnifique, parce que la vie de Joseph nous enseigne non seulement comment découvrir la puissance du rêve de Dieu, mais elle nous enseigne aussi comment protéger le rêve de Dieu. Puis il y a ce sentiment qui brûle dans mon cœur en ce moment. Un peu comme lorsque Jésus s'est retrouvé avec Pierre, et c'est le grand berger lui-même, parfaitement incarné en Christ, qui regarde à l'apôtre Pierre et qui sait, il a une parole prophétique, il a une vision prophétique, il sait que Pierre va le renier, il sait que Pierre va donner un coup de poignard dans le rêve de Dieu pour lui, il sait que Pierre va pleurer amèrement, blasphémer, le renier, retourner à ses bateaux, il sait toutes les faiblesses qui sont en Pierre, toutes ses capacités de faiblesse. C'est pour ça qu'il dit, Simon, Simon, malgré tout ce que tu dis en ce moment, tous les autres pourraient te renier, mais moi je vais être avec toi, Seigneur. Simon, Satan a désiré te faucher comme les blés, il a désiré te cribler comme le froment, mais moi j'ai prié pour toi. Non seulement est-ce qu'il le voyait chuter, mais il le voyait aussi, j'ai prié pour toi, et lorsque tu vas revenir, c'est toi qui vas fortifier les autres. Tu vas fortifier les frères. J'aimerais proposer à chaque personne ici que de voir que les faiblesses des gens, de voir leurs capacités, de voir les faiblesses de nos enfants ou de nos conjoints, de nos conjointes, de voir les faiblesses des gens autour de nous est très humain, très, il n'y a pas de don, il n'y a pas de grandeur là-dedans, mais nous avons besoin d'être remplis de l'esprit du berger, de l'esprit de Christ, parce que Pierre, dans toutes ses faiblesses, Dieu le voyait non seulement dans son moment de chute, mais il le voyait déjà 50 jours plus tard, le jour de la Pentecôte, lorsqu'il soutiendrait les frères et annoncerait l'Évangile et ouvrirait la porte de l'Église. J'aimerais déclarer ce matin que j'aimerais demander à Dieu de m'aider afin de vous équiper pour protéger le rêve de Dieu. Il y a un rêve au-dessus de chacune de vos vies, puis il n'y a rien d'extérieur qui peut venir le tuer. N'importe quoi que l'ennemi va faire, les circonstances, la vie va faire pour venir tuer le rêve de Dieu, Dieu va le tourner à sa gloire et va l'utiliser pour que le rêve soit encore plus fort en vous. On ne peut pas, nous, on ne peut pas à l'extérieur, on ne peut pas tuer le rêve de Dieu en nous. Mais nous sommes des créatures, des êtres humains, créés par Dieu avec une volonté libre. Et s'il n'y a rien, aucune arme formée contre nous qui peut prospérer, et que l'extérieur ne peut pas tuer le rêve de Dieu, nous pouvons l'avorter. Personne n'est forcé dans le rêve de Dieu. Personne ici ce matin va être forcé comme un robot d'accomplir le rêve de Dieu. Nous avons besoin de savoir, non seulement de découvrir dans la parole de Dieu, non seulement comment s'emparer de la puissance, vivre la puissance du rêve de Dieu, mais comment le protéger. Il y a quelque chose, il y a deux sentiments qui brûlent dans mon cœur ce matin. Il y a l'esprit combattant en moi ce matin. Si je peux m'exprimer ainsi, il y a une colère pure contre l'ennemi et les ténèbres qui a volé le rêve de Dieu dans tellement de personnes, tellement de couples, tellement de jeunes hommes, tellement de jeunes filles. Mais il y a aussi en moi une confiance. Il y a un espoir qu'on va se rouler les manches ensemble, si vous voulez bien, dans ces messages. Puis on va dire, nous ne sommes pas ignorants de comment l'ennemi attaque. Nous allons l'exposer. Et par la grâce de Dieu, chaque personne va sortir d'ici avec un désir brûlant, en sachant comment, non seulement connaître le rêve, mais protéger le rêve afin qu'il s'accomplisse dans chacun d'entre nous. Que ceux qui désirent protéger le rêve de Dieu, crie Amen dans ce lieu ce matin et applaudisse ce rêve avec moi. Alors, nous allons regarder et lire ensemble dans Genèse chapitre 39 cette vignette, ce récit de la vie de Joseph, et nous allons découvrir à travers son modèle. On commence ce matin, mais on va continuer dans les prochaines semaines. Nous allons découvrir ensemble comment protéger le rêve de Dieu. Je suis tellement béni que ce modèle de Joseph est là afin de nous montrer le rêve de Dieu. Joseph avait reçu un rêve de la part de Dieu. Ses frères l'ont opposé. Vous connaissez le récit, ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Ils l'ont jeté dans un puits. Ils l'ont vendu comme un esclave. Et lorsqu'on a laissé Joseph la semaine dernière, il était sur une charrette. Il était les chaînes aux pieds et aux mains, amené vers l'Égypte comme un esclave. Ses frères pensaient que le rêve de Dieu était fini en lui. Et maintenant, il va nous enseigner comment protéger le rêve de Dieu. On va lire un texte qui est magnifique, mais qui est brutal d'honnêteté. Brutal de la réalité de nos vies de tous les jours. Il parle des gens qui vont être surpris que vous avez beaucoup de nouveaux chrétiens et sa nouvelle vie. Des gens qui vont être surpris que c'est dans la Bible, ce récit-là qu'on va lire dans un instant. Des gens qui vont être surpris par certains des mots qui sont utilisés. Mais c'est le véritable combat à laquelle nous faisons face à chaque jour de nos vies. Genèse chapitre 39, comment protéger le rêve de Dieu. On commence ce matin, verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, qui était le commandant des gardes, l'acheta comme esclave et aux des Ismaélites qui l'avaient fait descendre. Verset 2. L'Éternel fut avec Joseph, et celui-ci réussissait à tout égard. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service. Verset 5. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison, sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph et la bénédiction de l'Éternel reposait sur tout ce qu'il touchait. Verset 6. Il abandonna tout entre les mains de Joseph. La fin du verset 6 nous dit, « Or, Joseph était un très bel homme. » Certaines versions disent, « Il était beau de figure et de stature. » Verset 7. « Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et elle dit, « Couche avec moi. » Il refusa. Il dit à la femme de son maître, « Voici qu'avec moi, mon maître ne s'occupe de rien dans la maison. Il a tout remis entre mes mains, tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison. Il n'y a rien qui m'est interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher avec elle pour s'unir à elle. Verset 11. Un jour, il entra dans la maison pour faire son travail, faire son ouvrage. Il n'y avait là, dans la maison, personne des gens de la maison. Alors, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Dites à la personne près de vous, puis il y a plein de monde qui pense que la Bible, c'est plate. Dites ça à la personne près de vous. J'aimerais vous proposer que le rêve de Dieu est protégé. On commence ce matin, quatre principes qu'on va commencer ce matin et continuer dans les prochaines semaines. Le rêve de Dieu est protégé lorsque nous continuons à lui faire confiance dans l'épreuve. Le rêve de Dieu est protégé par nos confrontations dans le lieu secret. Le rêve de Dieu est protégé par un combat continuel et le rêve de Dieu est protégé par une consécration à un style de vie de pureté radicale. Le rêve de Dieu, bien-aimé, dans votre vie va être protégé lorsque vous allez prendre la décision de continuer à le servir et à lui faire confiance au milieu de l'épreuve. La dernière fois qu'on a regardé la vie de Joseph, il est dans une charrette en route vers l'Égypte. Il est emprisonné à des chaînes aux mains et aux pieds. Il est traumatisé. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Il est entouré de, vous avez vu des scènes de n'importe quelle que soit l'époque, comment ces êtres humains étaient traités comme des animaux. Il est entouré d'un langage qu'il ne connaît pas. Ces hommes, les esclavagistes ont pouvoir de vie ou de mort sur lui. On peut spéculer, on ne sait pas tous les détails. Il peut avoir été mis sur une espèce de bloc d'esclavage où des gens faisaient un enchère pour l'acheter. Il peut avoir été vendu en vrac avec un groupe de personnes. Potiphar, un homme dur, un commandant de garde sous l'armée de Pharaon, l'achète comme esclave, l'amène dans sa maison, il est jeté dans cette maison. Et ce qu'on ne sait pas, ce que la Bible ne nous dit pas, nous ne savons pas combien de temps il a été dans la maison de Potiphar. On ne sait pas s'il a été là 3 mois ou s'il a été là 3 ans. On ne sait pas combien de temps il a été là. Mais alors qu'il est jeté là, alors qu'il est dans un endroit, et la maison de Potiphar représente beaucoup de choses. La maison de Potiphar représente l'inconnu. Je suis dans un endroit, représente ces moments dans vos vies où on est lancé à quelque part où je ne pensais jamais que ça m'arriverait, où l'angoisse m'agrippe le cœur, je ne pensais jamais que je vivrais ça. Je ne connais rien ici, tous mes repères, toute ma sécurité m'a été enlevée. La maison de Potiphar représente l'invisible. Je vois rien, que personne, il semble qu'il n'y a rien, ni personne qui va pouvoir me sortir d'ici. Je n'avais jamais pensé que je me retrouverais aussi seul. L'isolement, la maison de Potiphar représente l'injustice. J'ai rien fait pour être ici. C'est pas de ma faute ce qui m'arrive. C'est d'autres qui ont mal agi. C'est d'autres qui ont été méchants. C'est d'autres qui ont rompu leurs vœux. Puis moi, je me retrouve ici aujourd'hui. La maison de Potiphar représente l'impossible. C'est fini. Je vais mourir ici. Personne ne peut m'en sortir. On ne sait pas combien de temps, dans son humanité normale, dans toute la faiblesse et dans tout l'élément frêle de l'être humain. On ne sait pas combien de temps Joseph était étendu là en dépression. On ne sait pas combien de temps il s'est dit, c'est fini, je vais mourir ici. On ne sait pas s'il y a eu des pensées de suicide. On ne sait pas s'il s'est dit, c'est fini, ma vie est terminée. Mais il y a quelque chose dans le cœur de cet homme qui nous enseigne comment protéger le rêve. Il y a un jour où il s'est levé. Il y a un moment où il s'est levé. Et il a dit, je ne sais pas qu'est-ce qui va m'arriver. Je ne comprends rien de ce qui m'arrive, mais je suis ici et je vais commencer et je vais continuer. à servir Dieu, à mettre ma confiance en Dieu dans la maison de Potiphar. Ici, entre les mains de mon maître, au-delà de ses mains, je suis dans les mains de Dieu. Le rêve est protégé lorsque nous réalisons d'une manière fraîche et puissante, lorsque nous n'oublions pas dans quelles mains nous sommes réellement. La Bible dit, le texte est intéressant parce que la Bible dit qu'il était sous la main de Potiphar, mais que Dieu s'est mis à bénir l'œuvre de ses mains. J'aimerais vous dire, quel que soit ce qui sur cette terre semble vous tenir, semble vous être là-dedans, je suis pris là-dedans, je suis là-dedans, je suis dans la maison de Potiphar, lorsque vous allez, tout le ciel, toute l'éternité, tout le ciel, tout ce qui est éternel, tout ce qui est puissant, tout ce qui est surnaturel est là, et dans l'attente d'un cœur qui va se tourner vers lui. La minute que Joseph s'est mis à crier à Dieu, à dire, moi je vais te servir ici, c'est fou, mais je vais te servir ici, la bénédiction est arrivée, la prospérité est arrivée, les chaînes ont tombé, il était dans une maison comme un esclave, et il est devenu un dirigeant dans cette maison. Il est devenu un chef. Il n'y a rien qui pouvait retenir la bénédiction de Dieu. Au-delà des mains de Potiphar, il était sous les mains de Dieu. Quelqu'un devrait dire amen. Vous allez protéger la bénédiction. Combien de rêves ont été avortés par des gens alors qu'ils se sont retrouvés dans une maison de Potiphar, dans un endroit difficile, dans un endroit inattendu, dans un endroit d'impossible dans leur vie, qui se sont recroquevillés sur eux-mêmes, sont devenus amers, se sont tournés vers le péché, ont abandonné les choses de Dieu alors que toute la bénédiction attendait. Comprenez-vous que les circonstances où tu es a bien peu d'importance si tu choisis de garder ton cœur vers Dieu. Même dans le fond de la maison de Potiphar, il y a une bénédiction de Dieu qui t'attend là. Vous devriez dire amen avant que j'explose. Quelqu'un devrait dire amen. Même dans le fond de la maison de Potiphar, tu peux choisir de continuer à le servir, de croire Dieu dans l'endroit le plus difficile, de croire Dieu à l'endroit où tout le monde s'est lavé les mains. Peut-être c'est pas possible que tu te sortes de ça, mais dans la maison de Potiphar, oui, il y a les mains de celui qui semble contrôler ma vie, mais au-delà de cela, il y a les mains de Dieu qui me portent et qui peuvent bénir l'œuvre de mes mains à moi. Il y a une abondance qui suit. Il y a une abondance qui, il y a une confiance qui produit l'abondance dans le rêve de Dieu. Le verset 5 nous dit, l'Éternel a béni, dès que Potiphar l'a établi sur sa maison, l'Éternel a béni la maison de l'Égyptien à cause de Joseph parce que la bénédiction de Dieu était sur Joseph. C'est un portrait prophétique. J'aimerais vous suggérer ceci. C'est même un portrait de nous. C'est un portrait de l'Église Nouvelle Vie. Savez-vous combien de théologiens, combien d'étudiants des choses de Dieu, combien d'étudiants des réveils, combien d'experts en croissance d'Église considèrent le Québec comme un des endroits les plus difficiles du monde pour l'œuvre du Seigneur? Comme un des endroits les plus arides, les plus fermés, les plus méprisants à l'égard de l'Évangile, les plus antichrist dans sa philosophie de société, un des endroits les plus difficiles, les plus persécutés, où les présomptions et où les méfiances et où la mentalité est tellement contre l'Église. J'ai vécu une expérience dans les dernières semaines. Samedi prochain, je vais être ici dimanche prochain, mais samedi prochain, je m'en vais pour une journée faire une conférence qui rassemble, c'est un grand honneur. J'ai été invité par l'Evangelical Fellowship of Canada, l'Association d'Églises évangéliques pour tout le Canada. Puis il y a des pasteurs des 10 provinces et des leaders qui s'en viennent. Et ils m'ont invité pour être prédicateur samedi prochain. Et lorsque je regarde dans les dernières années à la liste de tous les prédicateurs qu'ils ont eus, ils ont vraiment invité des hommes bien plus grands, dont je ne suis pas digne de délier la courroie de leurs sandales, des hommes de Dieu de partout à travers le monde qui sont venus et qui ont adressé ce groupe-là. Et j'étais éberlué moi-même qui m'invite à y aller. Et celui qui nous a invités, celui qui est sur le comité organisateur, un homme qui s'appelle David McFarlane, un pasteur, a écrit une lettre à des centaines d'églises du mouvement. On fait partie de ce mouvement-là, nous aussi. Mais ils ont envoyé une lettre à des centaines d'églises du mouvement pour parler de la conférence et tous ceux qui viennent. Et j'ai souri en lisant la lettre. Peut-être je me trompe, mais on dirait qu'ils écrivaient une lettre pour essayer d'expliquer au reste du Canada pourquoi ils ont invité un tipette comme moi. C'est ça que ça me donne. Je trouve que... Peut-être que c'est pas ça du tout, puis lui, il dirait jamais ça, parce qu'il n'y a pas de traduire ça en anglais, là. C'est en anglais. Mais c'est juste, ça me faisait sourire. Et je ne vous lis pas cette lettre-là dans un... Il n'y a pas d'objectif de vous élever ou de vous rendre orgueilleux ou de vous rendre vaniteux. Dieu fait des choses extraordinaires dans l'œuvre de Dieu partout au Québec et ailleurs. Mais simplement pour... Et non plus, il n'y a aucun sentiment de regarde qu'est-ce qu'on a accompli. Il y a quelque chose en nous de plus grand que ça, de plus pur, de plus puissant, et surtout de plus important que ça. C'est que même si en tant qu'Église, tu te retrouves dans un endroit, nous sommes appelés à un endroit qui est considéré par certains comme la maison de Potiphar, si on est ici, dans l'endroit dur, dans l'endroit d'épreuve, puis on plante nos pieds et on dit, Seigneur, peut-être qu'il y en a qui pensent qu'il y a des mains dures sur cette province, mais au-delà de ces mains-là, il y a les mains de Dieu qui nous portent. Dieu va nous bénir et va faire de nous, comme Joseph peut faire de nous, une source de bénédiction à l'intérieur de la maison de Potiphar. Il m'a écrit cette lettre, ça m'a tellement béni. Il l'a envoyé au pasteur à travers le Canada. Et puis il a dit, nous aurions, il parle de la conférence et des invités, et de moi comme invité, puis il dit, nous aurions pu inviter le who's who du ministère à grande échelle nord-américain et même mondial comme prédicateur à cette conférence. Mais nous avons invité ce frère parce que depuis plus de 30 ans, nous entendions dire que le Québec est une terre impossible à percer et à récolter. Et Dieu a bâti ce qui deviendra sous peu la plus grande église au Canada, au bord des portes de l'enfer au Québec. Maintenant, comprenez, je ne veux pas que vous offensiez, là. C'est un frère anglophone qui écrit ça, mais c'est une expression biblique, parce que la Bible nous dit, Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévoient contre. Il n'est pas en train d'appeler le Québec un endroit infernal, il est juste en train de citer un verset biblique. Je veux juste que vous soyez sûrs là-dessus, parce que le groupe en avant a fait « Alors, je voulais être sûr que... Mais dites à la personne près de vous, mais nous sommes tellement plus spirituels. Dites ça à la personne près de vous. Si nous devons découvrir, c'est lui qui écrit ça à tous les pasteurs du Canada. Nous devons découvrir comment le reste du Canada peut s'approprier cette bénédiction pour nous aussi. Alors que tellement de voix au Québec disent, ils nous disent, que les années 2000 sont les plus difficiles, l'Église Nouvelle Vie dit, Dieu a agi de façon sans précédent. Et lui termine sa lettre en disant, chers amis, il y a un grand miracle et un témoignage que le reste du monde doit découvrir ici même au Canada, dans notre cour arrière, in our own backyard. Ce miracle, je l'ai vu de mes propres yeux, David est venu ici. Il dit, ce miracle, je l'ai vu de mes propres yeux. Ce miracle, je l'ai étudié attentivement. Ce miracle me donne espoir pour notre pays. Ce miracle s'appelle l'Église Nouvelle Vie. Je suis en train de vous dire que ce que d'autres appellent la maison de Potiphar, cette province, Dieu nous y a appelés. Et dans ce lieu, nous avons et nous allons trouver la bénédiction de Dieu qui va devenir une source qui va jaillir aux quatre coins de la province. Quelqu'un devrait dire amen et applaudir la bénédiction de Dieu dans la maison de Potiphar. Comment protéger le rêve de Dieu? Continuer à lui faire confiance dans l'épreuve. Continuer à l'honorer, continuer à le servir, continuer à lui donner ce que vous avez. Continuer dans la maison de Potiphar à le servir. Et c'est toute sa bénédiction qui va venir vous remplir. Comment protéger le rêve de Dieu? Nous le protégeons lorsque nous continuons à lui faire confiance dans l'épreuve. Et dernièrement, pour ce matin, le rêve de Dieu est protégé par nos confrontations dans le lieu secret. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur lui et lui dit, « Couche avec moi. » Il refusa en lui disant, « Il n'est pas plus, il n'y a personne qui a plus d'autorité que moi dans cette maison. Et le maître ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Les jeunes qui sont ici ce matin, les gens de tous les âges, le rêve de Dieu va vivre et mourir avec vos décisions dans le lieu secret. Le rêve de Dieu va vivre et mourir avec des décisions la plupart du temps que personne ne voit. Je parle à chaque homme marié dans ce lieu, je vous dis, le rêve de Dieu va vivre ou mourir dans vos décisions personnelles de moralité, de pureté, dans le lieu secret. Alors que la bénédiction de Dieu est sur lui. La femme de Potiphar commence à venir. La Bible nous dit qu'elle venait jour après jour. La bénédiction de Dieu, le rêve de Dieu est protégé dans un combat qui est continuel. Puis il y a une séquence dans la vie de Joseph qui est importante. Il est arrivé là comme esclave, il y avait une tragédie. Il a crié à Dieu et la touche de Dieu est venue le toucher. Et alors la tentation est venue. C'est souvent... lorsqu'on était dans des moments de grands besoins, qu'on est venu à Dieu, notre vie était sans dessus dessous, on était pris, on était brisé, on a crié à Dieu. Puis il y a beaucoup de chrétiens que lorsque le trouble vient, se mettent à crier à Dieu. Mais lorsque la bénédiction vient, puis je suis établi maintenant, Joseph avait l'opportunité, avait la tentation de relâcher sa garde, de baisser sa garde. Il n'y a personne qui me voit, il n'y a personne qui sait. Mon père n'est pas ici, mes frères ne sont pas ici, les gens, ma mère est partie, les influences bien que j'avais. Je suis dans la maison, puis il n'y a personne qui me voit, personne qui le sait. alors que Joseph est là et que la bénédiction de Dieu est sur lui, que le rêve de Dieu commence dans ses premiers balbutiements à s'accomplir en lui, il y a encore plein, vous pouvez être certain que Joseph était là, puis sa vie n'est certainement pas parfaite. Il est dans la maison de Potiphar, dans une maison d'esclavage. Il est seul, il est loin de tous. Alors, il représente le croyant qui a été touché par Dieu et qui a un rêve, mais qui a toutes sortes d'insatisfactions qui sont normales. Des insatisfactions, des sentiments dans nos cœurs de manquement, des sentiments de tentation qui sont là. Puis il y a une scène, il y a des versets qui sont tellement importants. Parce que lorsque cette dame a dit, c'est vulgaire de la manière qu'elle le dit, elle était sans retenue, elle était sans prétention, elle est venue, elle lui dit, couche avec moi. Mais ce qu'elle disait vraiment, c'est quelque chose que l'ennemi dit à chaque personne ici, chaque personne qui a le rêve de Dieu dans sa vie. Ce qu'elle disait vraiment, c'était, détruis le rêve, souille ton témoignage, avorte ta destinée, poignarde ton avenir. Donne-toi un moment de satisfaction momentanée, temporaire, charnelle, physique, qui va passer si vite et qui va être suivi par du tourment et de l'endurcissement si tu continues, et un sentiment de condamnation et une incapacité de parler à Dieu, de prier à Dieu, la tête baissée dans ta relation avec Dieu et toutes sortes de sentes de passer, d'abandonner Dieu entièrement. Ce qu'elle disait, c'est « Vas-y, avorte la destinée de Dieu ». Joseph était là, et le verset est très important parce que la Bible nous dit qu'il n'y avait personne, il n'y avait personne là dans la maison, personne des gens de la maison. Le patron n'était pas là, le mari n'était pas là, les gens n'étaient pas là, sa mère était décédée, tous ceux qu'il avait connus n'étaient pas là, il n'y a personne dans la maison, mais Joseph a dit... Comment est-ce que je pourrais faire cette chose-là? J'ai beaucoup de liberté. Le maître ne m'a rien interdit, mais il m'interdit toi parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je ainsi pécher contre Dieu? Joseph disait en fait à chaque personne ici, lorsque personne d'autre n'est là, Dieu est là. Il n'y avait personne dans la maison, mais Dieu était dans la maison. Et je ne vis pas ma vie sous les regards des hommes. Je vis ma vie selon celui qui donne le rêve, et celui qui m'a appelé, et celui qui m'a aimé, et celui qui veut me protéger. Dieu est dans la maison. Quelqu'un devrait dire amen. Pas ici pour amasser une grande foule. Puis je suis pas ici pour que ça, à tout prix, vous m'aimiez. Je ne suis pas ici pour faire une prédication qui n'offense personne et vous flatte. Je vous aime assez pour vous dire aujourd'hui ce que beaucoup de chrétiens vivent leur vie entière sans entendre. Il y a encore des choses qui sont interdites en 2007. Il a dit, j'ai beaucoup de liberté, moi, dans cette maison, mais il y a des choses qui sont interdites et elles le sont pour ma protection. Je veux appeler chaque homme dans ce lieu à dire, quels que soient les échecs que j'ai pu commettre, chaque femme dans ce lieu à dire, quels que soient les échecs que j'ai pu avoir dans le lieu secret, dans mes relations avec le sexe opposé, ou avec quelque autre forme de péché, avec l'Internet, ou avec la pornographie, avec des films, ou avec des relations d'amitié que je suis en train, que j'ai développées avec des personnes qui mettent en péril mon mariage, quels que soient les échecs que j'ai vécus dans ma vie personnelle, aujourd'hui, je suis saisi par Dieu et je dis, mon Seigneur, en 2007, je veux gagner les confrontations dans le lieu secret. Et à cet endroit-là, et je mets la Bible au défi, je vous dis ceci, si vous avez la volonté simplement de dire, Seigneur, je veux avoir cette vie radicale devant toi, c'est toute la puissance de Dieu qui va vous remplir. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes capacités. Mais pour chaque tentation, sa puissance va te donner un chemin pour en sortir. Quelqu'un va dire amen. Mais il y a un appel. Je termine le message dans un instant. Continuons les prochaines semaines. Mais il y a un appel à un style de vie, à une consécration radicale. La Bible nous dit qu'elle avait beau le tourmenter à chaque jour, que Joseph ne voulait même pas entendre, ne se permettait même pas d'entendre ce qu'elle disait. Que le texte dit, je vous le lis littéralement dans le texte de Genèse 37, elle avait beau parler jour après jour, il n'écoutait même pas, il ne s'ouvrait même pas à ses possibilités. Puis je vous raconte l'incident. Volontairement, je pourrais en faire quelque chose qui est humoristique parce que la scène peut avoir, mais je ne veux pas le faire de manière humoristique ce matin. La Bible nous dit qu'à un moment où il n'y avait personne dans la maison, elle l'a pris. Puis dans sa passion, dans sa folie et dans sa haine, dans tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait de mal en elle, elle met les mains sur lui pour coucher avec lui. Et ces hommes-là portaient des espèces de tuniques, parfois une tunique par-dessus une autre. Mais elle s'est emparée de lui, puis elle l'a serré tellement fort. Et Joseph ne discute pas, n'argumente pas, ne reste pas. Il part tellement vite qu'elle reste avec la tunique dans les mains. Puis il y a quelque chose qui est là, qui est la recette, le secret pour la victoire dans le lieu secret. Il refusait même de l'écouter, de l'entendre, de nourrir son esprit avec la possibilité de. Il refusait d'entretenir des pensées dans cette direction, puis il refusait même d'être à la place où il peut chuter. J'étais à New York, pendant que les musiciens s'approchent, j'étais à New York la semaine dernière, le jour de Martin Luther King Day, et tout le pays au complet parlait de son célèbre message « I have a dream ». Et c'est tenu en 1964, en août 64, au Lincoln Memorial, puis elle a levé sa voix, puis a déclaré au pays qu'il avait un rêve. Bien, moi, ce matin, à l'Église Nouvelle Vie, je suis seulement un petit pasteur de l'Église, mais j'ai un rêve, moi. J'ai un rêve que chaque mari dans ce lieu, chaque épouse, chaque jeune, chaque personne, dans le lieu secret, va avoir le cœur de Joseph en 2007. Il dit, je ne veux même pas entretenir la pensée. Et je veux fuir même la place où je pourrais chuter. Et par la grâce de Dieu en 2007, si vous avez chuté en 2006, n'acceptez aucune condamnation de l'ennemi. Relevez votre tête ce matin et dites, Seigneur, tu es grâce, tu es pardon, tu es bonté. Et en 2007, mon Dieu, c'est devant toi que je vais vivre. Et je vais protéger le rêve. Et je ne serai pas un de plus. Une de plus qui avait un rêve extraordinaire sur sa vie. Puis qui a laissé le violeur, laissé l'ennemi rentrer dans la maison. Et tout déchiqueté en morceaux. Et combien d'entre nous, je ne nommerai jamais personne. Et tout le monde peut être restauré par Dieu. Mais combien d'entre nous connaissons des gens qui avaient un appel extraordinaire. Puis ont laissé l'ennemi entrer. Et tout ruiné. Sujet de honte pour eux-mêmes. Et tout le monde autour d'eux. Par la grâce de Dieu, je vais être un Joseph en 2007. Je laisse même pas la pensée venir en moi. Puis je vais courir tellement loin que ça restera, mon vêtement restera dans la main de mon ennemi, mais moi je vais protéger le rêve de Dieu dans ma vie dans l'année 2007. Et que ceux qui disent Amen applaudissent. Je vais terminer en regardant avec vous un témoignage. Vous êtes bénis, on est privilégiés de le voir. Il y a quelques mois, le frère David Wilkerson a célébré son 75e anniversaire. Il a commencé le ministère à l'âge de 17 ans, plus de 50 ans de ministère. Et l'Église a fait un vidéo hommage au frère Wilkerson qui commence avec un homme qui prend une décision dans le lieu secret. Ceux d'entre vous qui connaissent son histoire, lui avait un problème à son époque. La télévision passait des heures, gaspillait des semaines et des semaines et des semaines à regarder la télévision. Il a décidé, senti que le Seigneur l'appelait à l'éteindre. Puis le temps qui passait là, de commencer à le passer avec Dieu. Juste une décision d'un pasteur à quelque part en Pennsylvanie. Et qui a ouvert le rêve de Dieu pour lui. Le but de vous montrer ce témoignage, il est en anglais, mais il est tout au complet traduit en français au bas de l'écran pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Ceux d'entre vous qui ne le connaissez pas, le frère Wilkerson, maintenant 76 ans, il voyage partout dans le monde, il a écrit des livres qui ont touché le monde entier, les pasteurs de l'église à New York, où il y a milliers et milliers de personnes qui sont venues au Seigneur. Il a fondé des centres qui s'appellent des filles jeunesse, qui ont amené à la délivrance des milliers de personnes dans, je pense, 77 pays. Le point de vous montrer ce témoignage n'est pas que vous disiez, « Ah oui, moi, c'est ça, je vais avoir un rêve comme celui d'Avril Christian. » Vous pouvez, chacun d'entre nous, aucun d'entre nous ne devrait aspirer à avoir la vie de quelqu'un d'autre. Je veux seulement aspirer à être tout ce que Dieu voulait que je sois. Est-ce que vous me suivez? Ce qui est beau, par exemple, ce qui est touchant, et Chantal et moi connaissons cet homme-là personnellement, sa femme, ses enfants, ce qui est touchant, c'est de voir un homme, et c'est particulièrement touchant, alors que l'actualité 2005 nous a éclaboussé avec des scandales d'hommes de Dieu qui ont un impact national, qui commettent des choses d'une horreur indescriptible, et ruinent le nom de Dieu sur leur vie et sur la vie de milliers d'autres. Ce qui est particulièrement touchant, c'est de voir cet homme qui a protégé toute sa vie le rêve de Dieu et qui se tient maintenant avec ses enfants qui aiment le Seigneur, qui servent Dieu avec lui et qui est là, un homme qui a protégé le rêve de Dieu et qui a vécu le rêve de Dieu. Vous n'êtes pas appelés, il y a des gens qui sont ici, peut-être qui sont appelés à ce type de ministère, mais la majorité d'entre nous ne seront pas appelés à être un prédicateur devant le monde entier, écrire tous ces livres, avoir 1 million de personnes qui lisent nos sermons et nos messages. Mais il y a un rêve de Dieu pour nous. Et lorsque j'ai regardé à cette vidéo, je n'ai pas dit, « Ah, Seigneur, je vais être un plus grand prédicateur. » Il y a quelque chose de sobre qui a rempli mon esprit de dire, « Seigneur, je veux être radicalement comme Joseph, comme David. Je veux radicalement, Seigneur, tuer, arrêter tout ce qui pourrait entrer dans mon esprit ou mon cœur et fuir de toutes les manières pratiques possibles tout ce qui pourrait venir me voler le rêve de Dieu. » Est-ce que vous comprenez que toutes sortes de victoires que personne ne voit, que c'est celles-là qui vont faire la différence? Des hommes à tous les jours qui vont prendre des victoires, vont arriver à la maison le soir, personne ne le sut. Mais aujourd'hui, tu as fermé une porte. Aujourd'hui, tu as dit non. Aujourd'hui, tu as refusé. Aujourd'hui, tu as laissé un morceau de ta chair dans les mains de l'ennemi. Alors que nous regardons cette vidéo ensemble, que l'on puisse dire, Seigneur, en 2007, je veux protéger le rêve de Dieu dans ma vie. Je veux être Joseph devant toi au nom de Jésus. On regarde ensemble. Merci.
Fifty years of ministry began with one act of obedience. As a young pastor, David Wilkerson made the decision to turn off his television and give his time and attention completely to God. It was a decision that would have immeasurable impact on his life and ministry. Born on May 19, 1931, in Hammond, Indiana, David Ray Wilkerson was the second child of Kenneth and Ann Wilkerson. David grew up with 4 other siblings, with the eldest being Juanita, a younger sister Ruth, and 2 younger brothers, Jerry and Don. Through the godly influence of a long lineage of clergy, this child would one day find his calling behind the pulpit. But it would not end there. Unbeknownst to him, the counsel of father and grandfather would serve as a poignant reminder as he would soon begin his journey through the unfamiliar streets of New York, the United States, and the rest of the world. On June 14, 1952, he married the love of his life, Gwen Caruso. Later on, he accepted a pastoral position in the small town of Phillipsburg, Pennsylvania. Amidst the comfortable and satisfying life of a country preacher, there was a deep cry that could not be silenced. It wasn't until 1958, after reading a touching article in Life magazine, that the stirring of the Holy Spirit would change the course of his life in a way that was incomprehensible at that point in time. He would go after those who were so lost it would take an act of God to reach them, the teenage gangs of New York City. This trip changed his life forever. David Wilkerson's burden for the lost of the city increased and gave birth to Teen Challenge, a nationwide ministry to reach out to people with life-controlling habits.
Teen Challenge became primarily a drug prevention program, an inpatient care center, and I had to set up the home in Brooklyn. We set that up in 1960 and expanded from there simply to take care of those that we were preaching to that had no place to go. The hospitals couldn't handle them at the time. Nobody was set up. And drug addiction then spread across the country. We just followed.
The ministry's Bible-based recovery program to troubled teens, gang members, drug addicts, and alcoholics has been recognized as one of the most effective efforts of its kind. Teen Challenge has grown to include 173 residential programs and numerous evangelism outreach centers in the United States, and 241 centers in 77 other countries. The program's cure rate of 86% has been recognized and substantiated by the U.S. government's National Institute on Drug Abuse. Today, many Teen Challenge graduates serve as ministers and missionaries throughout the world. The story of David Wilkerson's first 5 years in New York is told in The Cross and the Switchblade, a book he co-authored in 1963. The book became a best-selling phenomenon, and more than 15 million copies have been distributed in over 30 languages. Because of the success of the book, a motion picture was released in 1969. It has been viewed by an estimated 50 million people in over 30 languages in 150 countries, according to the World Film Crusade. In 1967, he began David Wilkerson Youth Crusades, an evangelistic ministry characterized by efforts to reach teenagers he called goodniks, middle-class kids who were restless and bored, to prevent them from being seduced into a life of bondage to drugs, alcohol, violence, or lawlessness.
Now hear me, please. If we lose this generation, we're going to lose it in the hearts of God's own people. If you feel the pull or tug of God's Spirit, don't move unless you feel that pulling at your heart. And you want that revolution in your life tonight. You want everything changed. I want you to get right out of your seat. I just want you to come and stand around the front. Look this way, please. I don't want people just look at you like you're on show. Not at all. Jesus, reach these hearts. You're two girls. Now, break this terrible habit. Because, Lord, it's a mind habit. That's where it has to be broken. Break it in the mind. God, break it. Jesus, break it in the mind.
Through this ministry, the Collegiate Urban Renewal Effort, also known as Cure Corps, was founded. In an effort to harness the idealism and sacrificial zeal of many Christian young people who knew about the Peace Corps and VISTA, but wanted to give their lives to Christ-centered efforts.
With him, and he was telling us about this new program he was starting called Cure Corps, and it would be for kids in college or out of college who wanted to give a year. It'd be sort of like the Peace Corps, except it would be a Christian concept, and the cure would not be any state program or anything that we would have to conjure up in our mind, but it would be presenting Jesus to the people, and that this would be a cure for their problem.
Soon after, together with his wife and four children, he moved the ministry's headquarters to Texas, where he founded World Challenge Incorporated in 1971. It serves as a corporate umbrella for the many ministries that have emerged over the years. With a strong emphasis on bringing the Lord's love to the disenfranchised, World Challenge has served the poorest of the poor throughout the world and communicated the gospel in practical and effective means, be it through large outdoor crusades or through meeting the basic needs of a struggling widow. In 1986, David and Gwen came back to New York City for a street rally. Walking down 42nd Street one night, he began to see the extent of its depravity. It was then and there he began to weep over this lost city. Through this travailing, a church was born in the heart of New York. From its inception, Times Square Church has stood at the world's crossroads as a church that always seeks out the lost, the addicted, and those seeking true fulfillment through the power of the risen Christ. Its various ministries throughout the years have not only provided for the physical needs of the individual, but have and continue to serve as avenues of refuge and healing. Today, more than 100 nationalities are represented in the congregation. And now, at 75 years of age, his ministry is more fruitful than ever. After many years of pastoring, God placed a burden in his heart for pastors and their spouses. To date, David Wilkerson and his son Gary have ministered in over 40 countries, holding conferences that bring about a renewed passion for Christ. Their messages have stirred, encouraged, and edified everyone from national church leaders to local lay ministers. This is what the Lord has entrusted him with. This is the fruit of his obedience.
Thank God for family. Thank God for ministry. Thank God for 50 years of ministry. But folks, it's boiled down to one issue. One desire. It's more than wanting to be loved and appreciated by the cheers and praises of man. It's more than being comfortable and knowing that you're secure in your old age. You've got some retirement plan or something. That means nothing. It comes down to this one issue. I want to be like Jesus. I want to see his face. And I want to be a reflection of who he is. Lord, when you said, "Seek my face," my heart said unto you, "Thy face, Lord, will I seek." That's the answer.
On peut dire ensemble la beauté du rêve de Dieu lorsqu'il est protégé. Je vous invite à pencher la tête pendant un instant. Les possibilités miraculeuses lorsqu'un homme décide, femme décide de protéger le rêve de Dieu. Un homme appelé de Dieu, qui protège le rêve de Dieu sur sa vie. Nous ne sommes pas appelés à être des David Wilkerson, mais Dieu a un rêve pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous pouvez imaginer tout ce qui pourrait arriver de merveilleux, de magnifique? Des mariages sauvés, des familles épargnées, des enfants qui grandissent dans la paix au lieu du tourment. Des ministères, des services pour Dieu. Des choses qui n'existent pas encore, qui seraient créées pour la gloire du Seigneur. Des couples, des mariages, des églises, des œuvres ici et dans le monde. Des rêves de Dieu qui s'accompliraient, se multiplieraient. Si chacun d'entre nous ce matin se lève et dit pour 2007, « Seigneur, je veux protéger le rêve de Dieu dans ma vie. Je veux le protéger, je veux être Joseph, je veux continuer à te faire confiance dans la maison de Potiphar. » Je sais, Seigneur, qu'il y a des confrontations dans le lieu secret, mais par ta grâce et ton esprit, je vais être Joseph. Dans ce combat continuel, je vais me consacrer à cette pureté radicale. Bien-aimés, si c'est votre désir ce matin, solennellement, 21 janvier 2007, et des milliers d'autres qui écouteront ce message par l'Internet et par la radio qui diront où je suis en ce moment. Je veux répondre à l'appel de Dieu et je veux surtout protéger le rêve de Dieu. Et s'il y a eu des échecs dans le lieu secret, toute la grâce de Dieu est là pour vous. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste de nous les pardonner. Mais ce matin, je peux décider cependant de dire, je vais protéger des jeunes qui sont ici. Je plaide avec vous, protégez le rêve de Dieu pour vous et sur votre vie. Si c'est votre désir ce matin, des hommes, des femmes partout à travers ce lieu, de tous les âges, de tous les arrière-plans, qui veulent protéger le rêve de Dieu, j'aimerais vous inviter à vous lever à votre place et dire, « Me voici, Seigneur, je m'offre à toi. » Combien Dieu est grand, combien son rêve est grand dans ce lieu ce matin, alors que nous allons chanter ce cantique qui célèbre la grandeur de Dieu, la grandeur du rêve de Dieu. Voulez-vous tendre vos mains vers le Seigneur et dire, « Me voici, Seigneur, Alléluia. Même avant qu'on chante, levez vos voix dans un moment de prière et de consécration.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.